Oui, Jonathan, bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir m'entretenir ce matin avec Annie Thomas, que j'ai souvent la chance de recevoir à Radio Présence parmi les invités de la Mêlée de l'Info le jeudi soir. Bonjour Annie Thomas, je crois que vous êtes
Bonjour.
à la montagne.
Tout à fait, je suis dans les Hautes-Pyrénées.
Eh bien, on en profite pour saluer tous nos auditeurs des Hautes-Pyrénées, ils sont nombreux. Je rappelle que vous avez été secrétaire national de la CFDT et présidente de l'UNEDIC et que vous êtes actuellement secrétaire général du site Les Clés du Social. Le social, c'est votre engagement, c'est votre cheval de bataille depuis longtemps. Et si je vous ai sollicité ce matin, c'est pour évoquer avec vous le livre blanc sur la parole de chômeur. Il a été présenté la semaine dernière à Paris, au siège du Secours catholique. Vous êtes membre du collectif toulousain qui a mis en œuvre cette démarche dans notre département. Qui sont les personnes, les organismes, les associations à l'origine de cette initiative, de cette enquête, et en quoi a-t-elle consisté précisément? Quels étaient ses objectifs?
Eh bien, nous sommes en fait 20 associations. Il faut remarquer que l'initiative est venue au départ du comité chrétien de solidarité avec les chômeurs. Et ensuite, il y a 20 organisations et associations qui ont souhaité se joindre à cette démarche, qui est une démarche en fait pour redonner la parole aux demandeurs d'emploi pendant la campagne présidentielle et législative, mais avec comme particularité de travailler sur ce que eux nous ont dit, c'est-à-dire ne pas confisquer leur parole, partir de ce qu'ils nous ont dit à partir d'un questionnaire qui a été diffusé par les 20 associations qui composent le collectif. Dans ces 20 associations, je ne les ai pas nommées, je devrais en nommer certaines, dont ATD Quart-Monde, Le Civique, le Mouvement National des Chômeurs et des Précaires, Solidarité Nouvelle contre le Chômage, Territoire Zéro Chômeur, et à Toulouse, la CFDT et le Mouvement pour l'économie solidaire. Donc, en fait, il s'est agi d'un questionnaire qui a été diffusé pendant les mois de février à juin 2021. Un questionnaire, vous comprenez, qui a été un peu difficile à faire démarrer parce que nous étions aussi ensuite de pandémie, pendant la pandémie.
Et oui.
Donc, certains des entretiens ont eu lieu en face à face, d'autres ont été établis grâce à l'ordinateur. Il faut souligner que de nombreuses associations ont fait aussi des groupes de parole. Il y en a eu un à Toulouse autour du Mouvement National des Chômeurs et des Précaires. Certaines paroisses aussi ont fait cette initiative. Nous sommes aussi servis d'autres enquêtes qui avaient été faites, en particulier par Solidarité Nouvelle contre le Chômage, juste au même moment par rapport aux problèmes de santé, qui, je le dis immédiatement, sont des problèmes importants pour les demandeurs d'emploi. Plus vous êtes au chômage longtemps, malheureusement, plus vous avez de risques de développer des problèmes médicaux, soit physiques, soit mentaux, psychologiques. Donc ça a été pour nous d'ailleurs une découverte. Donc de tous ces questionnaires, groupes de parole, entretiens, nous avons édité un livre blanc, vous l'avez dit, qui doit peser pendant la campagne présidentielle et la campagne législative.
On va y revenir à ça. Alors il y a eu, je crois, 270 participants qui ont répondu à votre questionnaire.
Oui.
Je me posais la question de savoir comment vous avez choisi les personnes qui ont participé à cette enquête. Parce que je suppose qu'il fallait qu'elle soit représentative de toutes les tranches d'âge, de toutes les catégories sociales ou socioprofessionnelles, et puis peut-être aussi des lieux, parce qu'il peut y avoir des disparités entre la campagne et la ville, je pense, entre les chômeurs.
Tout à fait, tout à fait. Dans la diversité des associations, vous avez vu qu'ils sont à la fois des associations caritatives, on peut le dire, de grandes associations, d'autres associations qui sont des associations de soutien aux demandeurs d'emploi, Solidarité Nouvelle contre le chômage par exemple, d'autres qui sont des organisations d'organisation des demandeurs d'emploi, comme le Mouvement National des Chômeurs et des Précaires. Donc ça fait une diversité extrêmement importante et bien évidemment de toute la France. Mais il faut le souligner, et vous avez raison de poser la question, parce que nous l'avons assumé immédiatement dès le départ du livre. Les personnes qui nous ont répondu ne sont pas caractéristiques en fait de la sociologie des demandeurs d'emploi. Je m'explique. Elles sont majoritairement des femmes. Et des femmes qui ont des diplômes élevés, il y en a la moitié qui ont un bac plus 3. Vous voyez, donc ça rend d'autant plus leur réponse rude, hein, parce que beaucoup sont rudes. Donc on s'adresse là à des demandeurs d'emploi qui sont plutôt ceux qui ont des diplômes élevés. Mais nous avons assumé ce point parce que en fait, les résultats convergent avec d'autres travaux qui ont été menés par les associations qui composent le collectif. Donc nous l'avons affiché immédiatement parce que je pense que scientifiquement il faut l'afficher. Ce n'est pas un sondage tel qu'on pourrait l'avoir par les grandes entreprises de sondage françaises qui sont tenues effectivement d'avoir un échantillon comme vous l'avez souligné. C'est un questionnaire plus sur le qualitatif, soyons clairs, d'abord que sur le quantitatif, et puis parce que nous avons pensé que les réponses, comme je le disais, en fait, étaient validées par d'autres enquêtes. Nous assumons ce fait.
D'accord. Alors, globalement, qu'est-ce que l'enquête a mis en évidence? Quels constats et conclusions avez-vous pu en tirer?
Alors, l'enquête et le livre blanc se divisent en 5 chapitres. C'est 5 chapitres qui disent comment les demandeurs d'emploi vivent la situation. Je le disais à l'instant avec des mots parfois très durs et très 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 forts, hein, contre les institutions. Et ensuite 9 propositions. Donc le constat, eh bien, le constat est très sévère. Le premier point, c'est que les demandeurs d'emploi s'estiment victimes de préjugés, s'estiment aussi blessés bien souvent par les expressions qui sont utilisées à leur propos, hein, les mots d'assisté, de fainéant ont été cités dans l'enquête. Ils estiment qu'on les stigmatise. Ils estiment aussi qu'ils sont souvent victimes, donc, de cette stigmatisation des politiques. On est donc dans le cadre de la campagne présidentielle et on voit surgir évidemment des surenchères par rapport au nombre de chômeurs, par rapport aussi aux programmes tels qu'ils pourraient être faits par les différents candidats. Nous voulons en fait montrer la réalité telle qu'ils la vivent. Ce qu'ils nous disent, c'est que le système de soutien, et en particulier institutionnel, dont il est mot très très dur par rapport à Pôle emploi, est très faible. On est souvent mieux soutenu par son entourage qu'on ne l'est par le système officiel. Ils nous disent souvent que les conseillers savent mieux pour eux ce qui est bon, qu'on ne les écoute pas, on les juge, on les accompagne très très peu. Ils estiment qu'il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'écoute. Ils estiment aussi qu'ils sont dans un isolement social, très souvent. Beaucoup de tristesse, hein, par rapport à cette situation-là. Ils estiment aussi qu'ils demandent des comptes aux employeurs. Ils pratiquent une politique de recrutement aberrante, il faut le dire, qui est basée sur le diplôme et souvent sur l'âge. Donc, quand vous ne correspondez pas au diplôme, eh bien, on ne vous prend pas. On ne vous donne pas la chance de pouvoir montrer que vous avez des savoir-faire, des savoir-être, que vous êtes aussi en capacité d'apprendre, parce que dans un métier ça s'apprend, hein, soyons clairs.
Oui.
Les employeurs veulent un CV qui colle exactement au poste qu'ils désirent. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche, hein, dans le monde normal. Ils estiment aussi être un peu ségrégés par l'âge, parfois par le handicap. Ils estiment aussi qu'ils ont des problèmes de santé, que personne n'y prête attention, je vous l'ai dit juste à l'instant. Ils ont aussi des problèmes de revenus, parce que vivre avec 400 euros, parfois c'est difficile. Vivre sans le RSA, parce qu'on a un certain âge, c'est aussi très difficile. Ils ont beaucoup insisté sur la déshumanisation des démarches. Ils nous ont dit, on a l'impression toute la journée de parler à Internet. Lorsqu'on va dans une agence pour l'emploi, même la personne qui est là à l'accueil nous renvoie vers une borne. Il y a aussi des problèmes par rapport à cet aspect-là. La civilisation numérique, c'est merveilleux quand ça marche, mais même nous qui sommes plus au fait, eh bien, nous nous énervons de temps en temps. Hein. Moi, j'ai toujours des problèmes avec WeTransfer, par exemple. Eh bien, imaginez cela lorsqu'il s'agit d'installer une application qui vous permet d'accéder à une application, qui vous permettra d'accéder à une application. En fait, tout ça est très, 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 oui, très, très compliqué. Et... ils nous disent aussi qu'ils sont prêts à à changer de métier, qui sont des personnes actives. Ils veulent être considérés comme des personnes actives. D'ailleurs, certains qui nous ont répondu nous ont dit « Nous sommes membres d'associations, nous sommes des élus, parfois dans les conseils municipaux, même ailleurs. » Nous prenons des cours, nous donnons des cours, nous sommes des personnes actives. Ils s'interrogent aussi sur le fait que cette période, qui pourrait être une période transitoire dans leur vie, est parfois une période qui n'est pas transitoire, ce n'est pas un marchepied, c'est quelque chose qui vous enfonce. Et enfin, le dernier constat, avant peut-être d'en passer aux propositions, c'est qu'ils estiment qu'il manque des emplois près d'eux, sur leur territoire, des emplois qui ont du sens. Donc, évidemment, on sait très bien que la structure des emplois aujourd'hui, lorsqu'on démarre, ce sont des CDD, c'est de l'intérim, c'est parfois des emplois précaires. Je crois qu'on peut se féliciter que le chômage baisse. Je pense que tous les demandeurs d'emploi qui nous ont répondu sont satisfaits aussi. Mais ce n'est pas parce que le chômage baisse, on le voit aujourd'hui, que les problèmes des chômeurs sont résolus, ou que la structure de l'emploi est une structure aussi, je dirais, réconfortante.
Oui, puis je suppose que tous ces constats ont été aggravés par la crise sanitaire, notamment l'isolement, la sensation d'isolement social et de ne parler qu'à des robots, en quelque sorte, à des machines.
Tout à fait. C'est très, très difficile lorsque vous avez des agences qui sont fermées, lorsque les conseillers de Pôle emploi travaillent par télétravail, c'est tout à fait normal, ou dans d'autres institutions. Hein. On peut parler de la CAF, on peut parler du conseil départemental pour les gens qui sont au RSA. Tout cela est très, très compliqué. Il y a cet aspect qui a été mis en avant, puisqu'effectivement, notre questionnaire a été, et les groupes de parole se sont déroulés pendant ce temps-là. Et la deuxième menace qui a plané aussi, c'est les nouvelles règles d'assurance chômage.
Hein. Oui, bien sûr.
Lorsque le questionnaire a été porté jusqu'en juin 2021, elles n'étaient pas appliquées, puisqu'elles sont appliquées depuis cet automne, mais tout le monde savait qu'elles étaient là. Évidemment, vous savez, Eric, tout le monde calcule. Hein. J'ai travaillé 6 mois avec l'ancien système et donc j'ai droit à mon indemnisation sur les 28 derniers mois. Et là, je n'ai travaillé que 4 mois sur les 24 derniers mois. Donc, j'ai un risque de ne pas passer. En fait, les gens savent très bien. Hein.
Ouais. Alors, excusez-moi parce qu'il nous reste 2 minutes. Là, les propositions, il y en a 9.
9 propositions.
Voilà, les grandes propositions, qu'est-ce que ce serait ?
Bien sûr. D'abord, changer de regard sur les chômeurs. On estime qu'une grande campagne nationale pour revaloriser leur image, avoir des offres d'emploi adaptées à leurs compétences, à leur savoir-faire, ce que je disais tout à l'heure. Pour eux, l'accompagnement est totalement à revoir. Il faut un accompagnement sur mesure, il faut de la confiance. Ils ne souhaitent pas un accompagnement technique, il n'y avait pas de demande de ça. Ils souhaitaient favoriser des conseillers qui ont vécu aussi ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, qui connaissent l'entreprise. Ils veulent valoriser le rôle des associations. Ils estiment que ces institutions devraient constituer des collectifs de pairs comme eux, de manière à ce que la parole circule et qu'on puisse s'aider. Et sur la question du temps, je crois qu'il y a urgence à régler la rapidité de la prise en charge. On laisse trop traîner, on fait des propositions, 3-4 mois de formation pour une formation qui aura lieu dans 6 mois. Enfin, tout ça est très très long et c'est très difficile à vivre. Ils veulent simplifier l'accès à la formation. Aujourd'hui, c'est un parcours de combattant. Franchement, et ils veulent que ce soit co-construit avec eux. Une personne qu'on a interrogée nous a dit « J'ai payé ma formation sur mes deniers et maintenant je ne trouve pas d'emploi. » Ce qui vraiment veut dire qu'il faut co-construire ce type de système.
On arrive au terme, excusez-moi, là, on arrive au terme.
On
va, le livre blanc, je suppose, va être remis au président de la République et à tous les candidats à la présidentielle.
Hein, absolument, remis à tous les candidats. Et à Toulouse aussi, nous aurons une démarche vers le directeur de Pôle emploi régional de Pôle emploi Occitanie, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, le maire de Toulouse et les partis de gouvernement pour relayer ce qui se fait à Paris.
Très bien, bien merci beaucoup Annie Thomas de nous avoir présenté cette enquête, ses conclusions et ses propositions qui ont donc été compilées dans le livre blanc sur la parole de chômeur. Il sera intéressant de voir si elles seront prises en compte par les collectivités, l'État et nos élus en général.